Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Quand j'étais anorexique, j'étais addict au fait de pouvoir avoir un super pouvoir, quelque part de vie ou de mort, sur mon propre corps, parce que ça frôle quand même avec l'idée de mort.
Notre invitée est une contradiction comme on les aime ici. Elle dit que la bouffe, c'est sa vie, mais se prive à mort quand il le faut. C'est une grande timide de nature, mais n'est heureuse que sur le devant de la scène. Elle peine à s'estimer, mais désire être aimée par tout le monde. Et ça marche plutôt pas mal, sa carrière en atteste. Joséphine ne se contente pas de chanter ou de jouer la comédie, elle écrit, que ce soit des chansons, des spectacles, des chroniques, des scénarios pour elle et pour les autres. Elle aime la dramaturgie mais joue souvent des rôles désopilants de girl next door, comme celui d'Emily dans la série à succès Plan-cœur. Mais elle n'est pas ici pour son humour, quoique, mais pour parler de son rapport compliqué à la nourriture. Comme souvent, c'est après un régime banal que tout commence. Peut-être justement parce qu'un régime, ça n'a rien d'anodin et qu'on devient vite accro à cette sensation de contrôle que nous confère la perte de poids. Et Joséphine aime le contrôle justement. Aux alentours de 17 ans, elle pèse alors 43 kilos pour 1m69. Lorsqu'elle se remet à manger, c'est encore le trop qui prend le dessus sur ce fameux « normalement » que nous, les addicts, on ne connaît pas. Elle passe d'un 32 à un 44 en quelques mois et devient championne olympique de yo-yo. Pendant plus de 15 ans, Joséphine ose, s'impose, change de visage, de coupe, de couleur de cheveux, de ligne de conduite et de ligne tout court, selon les époques, les photos, la stabilité et les kilos qu'elle gagne ou qu'elle perd. Désormais actrice et maman aguerrie, elle apprend jour après jour à gérer cette difficulté qui fera toujours partie de sa vie. Elle l'a intégrée et a fait le choix d'en parler librement afin de démystifier ce trouble qui toucherait une femme sur cinq en France, officiellement. Oui. Officieusement, la honte, l'ignorance ou le déni mènent à l'absence de diagnostic et à la solitude, et donc souvent à l'amplification de la maladie. Merci Joséphine Dry de nous apporter ton précieux témoignage.
Ah merci, c'était magnifique. En tout cas, tout ce que tu as dit, j'étais...
T'étais d'accord?
Pas pour tout, parce qu'il y avait des choses où tu t'en as rajouté.
C'est vrai?
C'est normal. Enfin, au début, il y avait un peu de superlatif, mais...
Ah non, mais parce que tu es trop, parce que tu es trop modeste.
Je sais pas. En tout cas, mais c'est très juste sur le sujet de fond, c'est-à-dire sur le fait que je pense qu'il y a beaucoup plus qu'une femme sur cinq qui a des problèmes avec ça. Je pense plutôt qu'il y a plutôt une femme sur cinq qui n'en a pas. C'est dans l'autre sens, je suis quasi persuadée.
Eh ben, regarde, on est trois, il y en a une qui n'en a pas.
Ben voilà, mais ce serait...
On est en
nombre supérieur déjà.
Voilà. Ouais. Non, je pense que oui, beaucoup de filles se sentent seules.
parce qu'elles déconnent un peu avec la nourriture ou parce qu'elles font des choses bizarres avec la nourriture et elles se disent les autres ne doivent pas le faire.
Oui, exactement.
Alors qu'en fait, les autres peut-être le font et ça peut aider d'en parler.
Exactement. Et ça peut être d'ailleurs même ça sur d'autres sujets, hein, le côté un peu tabou de, ou le côté un peu honteux de se dire bah, je suis folle de faire ça, je pense que personne d'autre le fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important parfois de communiquer. Moi, j'ai des amis très très proches, j'en ai très peu comme ça avec qui je suis capable d'être ouverte sur ça, où on se vanne un peu sur nos folies autour de la nourriture et on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément soit avec les mêmes aliments, soit les mêmes horaires, soit les mêmes trucs, mais en fait, il y a beaucoup de points communs dans des choses extrêmement bizarres.
C'est comme la sexualité, en fait.
Hein, exactement. Dire,
chacun a ses trucs. Exactement. Et tout le monde peut penser, ah, mais je suis tordue, je suis bizarre. C'est alors ça. Qu'en fait, la majeure partie des gens ont des fantasmes ou des pratiques totalement farfelues, disons.
Oui, c'est ça, farfelues. Après, ça répond toujours à des, soit des traumas du passé, parfois. Sur le comportement alimentaire, c'est sûr que... Mais après, moi, j'ai carrément... je remarque quand même que le fait d'avoir été marquée par ça depuis mon plus jeune âge, j'ai une sorte de radar. Je vois tout de suite une fille qui a un problème.
Oui, tu sais.
Je le sens. Mmh. J'ai comme... Voilà, c'est comme... Je sais pas, pour toi, peut-être que tu vois quelqu'un qui a eu un problème avec...
Mais même la nourriture, je vois.
Ah, voilà. Mais en tout cas, j'ai une bonne intuition sur ça.
Petite déformation professionnelle. Souvent, on croit que tout le monde a un problème, alors que des fois, non.
Oui, c'est ça. Alors, non, mais parce que je prends le temps de me faire mon diagnostic personnel. Je suis pas tout de suite au bout de deux secondes un déjeuner avec quelqu'un. Mais sur quand je peux voir plusieurs fois ou une amie, même sur du long terme, je suis persuadée que même si elle veut pas le reconnaître ou, comme tu dis, le minimiser ou même être dans le déni
cacher,
parfois.
Le cacher,
elle, oui, ou même parfois se le cacher à elle-même aussi. Mmh. Parfois, elle va se réfugier en se disant non, parce que là, tu comprends, je connaissais quelqu'un qui avait toujours une excuse, mais à chaque fois sur 6 ans, ça t'avait dire, t'as pas 80 fois le lendemain un truc important, tu dois être bien. Non, ça peut être vrai pour plein de fois. Et tu savais qu'en fait, elle s'inventait des échéances pour être bien, mais c'était sa façon de garder le contrôle à elle.
D'accord, et ouais, je vois très bien ça. Tu peux nous donner ta définition de l'addiction déjà, et puis après, pourquoi pas du trouble du comportement alimentaire, parce que c'est un cas particulier d'addiction et de conduite addictive.
J'ai beaucoup d'addictions déjà, j'ai ce qu'on appelle un tempérament addictif, ça c'est sûr, et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que je n'ai jamais essayé la cocaïne, parce que je suis certaine que je tomberai dedans. C'est carrément une évidence pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, alors moi je suis tellement justement tout ou rien que si je mets un doigt dedans, c'est pas genre ah ouais, moi une fois de temps en temps au Nouvel An ça me fait rigoler. Non, je ne suis pas cette personne.
Ça pourrait ne pas te plaire parce que regarde ton tempérament, il est surexcité déjà.
Mais je oui, alors déjà parce que aussi je ne suis pas
dirait que tu en as pris.
Exactement, on m'a déjà d'ailleurs je pense qu'il y a plein de gens
Obélix,
qui pensent
ça.
Il y a plein de gens qui pensent que j'en ai pris. Je pense non, ou que j'en
je sais pas. Mais non, parce que tu n'as pas un ego surdimensionné.
Ça c'est un truc.
Tu as une petite estime de toi, regarde la preuve, tu étais déjà en train de
ça c'est un signe.
Bah bien sûr, on est toujours en train déjà tu n'es pas en train de montrer les photos de tes enfants. Mais regarde comment c'est le plus beau. Et écoute cette musique que j'ai composée hier soir, c'est la meilleure.
Attends, la photo, je vais te le faire après en off quand même. C'était prévu, hein, la vidéo de mon fils déguisé en Spider-Man.
Il a 3 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est le pile l'âge. C'est l'âge.
Bah, écoute, pendant 3 ans, il va encore sortir avec une cape. Après, je te jure, il se laissera peinard.
Oh là là, c'est le début, ça y est. On est en plein dedans.
Alors,
oui,
tu as plusieurs addictions.
La définition pour moi de l'addiction, et je la formule en. Parce que je réponds à ta question, parce qu'en vrai, je pense jamais formuler personnellement. Pour moi, l'addiction, c'est quand j'ai l'impression que c'est comme une entité qui a un contrôle sur moi. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'après, moi, j'ai carrément inventé un concept qui s'appelle la grosse dame en ce qui concerne mon addiction à la nourriture, parce que j'ai l'impression que dans ces moments-là, c'est une autre personne qui me contrôle. Et comme tout est une histoire de contrôle, pour moi, dans ma vie, justement, c'est pour ça que j'ai pu être anorexique, parce que j'avais à ce moment-là une entité où j'avais l'impression que c'était moi qui contrôlais tout. Et en fait, dans ces moments-là, l'addiction, c'est quand tu dis « Ok, comme si tu avais un dictateur, un gendarme ou je ne sais quoi, ou quelqu'un qui vient te dire « T'as plus le choix, c'est comme ça. Tu lâches tout ce que tu avais et tu vas faire ça » et qui te contrôle et qui t'ordonne et tu n'as pas d'autre choix que d'obéir. Mais parce que j'ai l'impression que c'est comme si j'obéissais à quelqu'un, mais la menace, elle est nulle, puisqu'il va pas me dire, sinon je vais te taser, sinon je vais t'enfermer dans une prison, en fait. C'est juste un schéma de quelqu'un qui prend le contrôle de moi et qui décide à ma place. Sauf qu'en fait, c'est une partie de moi. C'est moi qui le décide. Je suis pas schizophrène.
C'est l'inconscient, en fait, déjà.
Voilà.
Hein.
Oui, c'est ça, parce souvent. Que ce gendarme-là existe pour plein d'autres choses
en fait,
chez
oui.
moi.
L'inconscient, de toute façon, décide à notre place, quoi qu'on en pense. Mais ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est que tu dis, voilà, quand j'ai cette grosse dame qui prend le contrôle, c'est une addiction. Mais quand j'étais anorexique, c'est moi qui contrôlais tout. Alors c'est drôle, alors que c'est quand même considéré comme une addiction au vide, à la maigreur,
exactement.
À la sensation de...
C'est la sensation de contrôle qui était aussi addictive.
Ouais, d'accord.
C'est le fait
voilà,
de me dire...
Là, t'es addict au contrôle.
Oui, c'est ça. C'était ce que je voulais dire. Quand j'étais anorexique, j'étais addict au fait de pouvoir avoir un super pouvoir quelque part de vie ou de mort hein, sur mon propre corps, parce que ça frôle quand même avec l'idée de mort. Moi, je ressemblais à une rescapée d'Auschwitz, hein, à peu de choses près. Donc, on était quand même proche d'un cadavérique, c'était cadavérique presque. Donc, et moi, je me trouvais sublime. Hein. C'est très important de préciser quand même que les gens qui sont anorexiques et qui peuvent... Même moi, je peux avoir froid dans le dos aujourd'hui quand je croise... ça me met extrêmement mal à l'aise de voir quelqu'un de très, très anorexique. Enfin, j'ai envie de dire... J'ai l'impression que je n'ai pas été aussi loin que certaines personnes.
On croit toujours.
Bon, je n'ai pas non plus beaucoup de photos d'ailleurs de cette période, étrangement. J'en ai pas tant que ça.
Ce qui est très étrange, c'est qu'énormément de filles anorexiques ne se rendent pas compte déjà qu'elles sont dans cet état-là. Et quand elles croisent des filles maigres, elles se disent « Ah, quelle horreur !» Enfin, elles se disent ouais, « Moi, je ne suis pas comme ça. »
C'est ça. On se voit, de toute façon, moi, j'ai une dysmorphophobie depuis, je pense, depuis cet événement. Le fait de passer de, 43 kilos à 80 en 3 mois, c'est impossible de ne pas créer une dysmorphophobie.
Et avant les 43 kilos, tu pesais combien ?
Déjà, je ne me souviens pas trop me peser. J'étais vraiment une jeune ado et je n'avais pas de balance dans ma salle de bain. Mm-hmm. Enfin, il y en avait une dans la salle de bain de ma maman, mais je n'avais pas ce réflexe-là. Donc, je dirais que j'avais forcément... En fait, quand j'ai fait le... j'ai dû perdre une quinzaine de... Ouais, je devais faire peut-être 60, un truc comme ça. Truc mais je faisais déjà 69. Ouais, j'étais déjà... C'était complètement... J'avais, entre guillemets, un corps parfait. Quand je vois des photos de moi avant de commencer mon régime, je suis... Ça, c'est terrible, parce que d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand je vois, je suis éternellement, donc depuis, en contrôle de mon apparence, jamais satisfaite, jamais je me trouve bien, jamais je suis vraiment en paix, ou si ce n'est ou trop peu. C'est-à-dire que parfois, je peux me dire, je suis bien pendant une semaine. C'est genre, je pense, mon maximum. Et après, il y a toujours un truc qui va me faire rechuter, repartir. Évidemment, pas des yo-yos de 15 kilos comme avant, mais assez pour me sentir pas bien. Mmh. Et quand je vois des photos de moi d'avant, je me trouve toujours magnifique en me disant, mais je me souviens très bien que je me sentais mal ce jour-là. Je me souviens très bien que je me sentais grosse ce mois-ci. Et en fait, je me trouve toujours très bien. Mais avec 5-6 ans de décalage.
C'est une leçon qu'il faut qu'on prenne. Et on est tous souvent dans ce cas-là, de regarder des photos en disant, mon Dieu, que j'étais belle. Et de se rappeler exactement le mal-être qui nous habitait à ce moment-là.
Énormément.
Moi, je vois ça dans des clips de moi, et je me dis, cette journée-là, c'était une journée en enfer pour moi, de tourner ce clip en me disant, je suis moche, je suis ci, je suis ça, les gens vont dire que... Et je regarde le clip, je dis, mais j'étais une enfant, j'étais une bombe, j'étais magnifique.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et en fait, on devrait se dire vraiment que dans 20 ans, on va regarder nos photos ça. Maintenant en se disant, hé, mais profite de ta quarantaine, quoi.
Je me le dis un petit peu maintenant, ouais, justement, parce que je me suis tellement dit ça de plein d'années et de plein de photos, en les re-regardant, ou même parfois des... Mm. Alors, même si la caméra, malheureusement, pour les gens qui ne le savent pas, fait prendre 5 kilos, automatiquement, c'est la lentille de la caméra, je ne sais pas, qui a inventé ça, une personne terrible, qui n'aimait pas...
Ça, c'est terrible, parce que quand tu vois une fille maigre à la télé, tu sais qu'elle est malade.
Pas tout le monde le sait, ça, hein, d'ailleurs.
Ouais, c'est nous, on le sait. Et c'est les terrible. Gens disent, oh là là, elle est bien gaulée. Elle est malade.
C'est ça, exactement. Alors, en tout cas, si elle est maigre à l'écran, c'est qu'elle est malade.
Et puis les photos retouchées aussi. Donc, en fait, nous, on regarde des choses qui ne sont pas réelles et qui sont surtout un aspect de maladie et qu'on trouve beau. Donc, de toute façon, c'est déjà d'avance biaisé.
Mais malheureusement, moi, dans mon métier, je suis obligée de l'anticiper, ça, parce que comme je sais que ça me fait prendre 5 kilos, faut forcément que j'ai un petit coup d'avance avant de commencer un tournage. Sinon, je sais déjà que je vais pas être contente du résultat à l'écran.
Parce que quand tu es actrice, est-ce que vraiment... c'est pas la même chose que quand tu étais chanteuse ou quand tu te mets en avant toi. Quand tu es actrice, est-ce que finalement tu joues un rôle? Donc de toute façon, tu as le droit d'être ronde,
ça dépend
si tu as envie.
En fait, ça dépend des rôles.
On te demande?
Moi, j'ai déjà pris 7 kilos pour un rôle.
On te le demandait? On te l'a demandé?
Oui, on me l'a demandé. Et d'ailleurs, on ne me l'a pas demandé gratuitement. On me l'a demandé, c'était encadré par... c'était contractuel que ma perte de poids était prise en charge par la production, donc c'était absolument pas anodin. Bah bravo, super d'être devenue grosse, allez gros bisous.
Allez salut.
Non, c'était pas du tout comme ça, sinon j'aurais refusé. D'ailleurs déjà, ils m'ont remercié d'avoir accepté de le faire parce que une autre comédienne.
On est mieux payé quand on nous demande de prendre du
pas
poids.
Pas du tout.
Ou grossir,
c'était pas du tout mieux payé, c'est juste que j'ai été dédommagée en étant accompagnée dans ma reperte de poids que j'ai dû faire toute seule comme une grande. Sûr. Donc c'était quand même ça n'engageait que moi, mais c'est eux qui m'ont payé la nutritionniste, le coach sportif après pour les reperdre. Et c'est pour ça que j'ai accepté, mais par contre, ça demandait quand même déjà d'ailleurs, c'est intéressant de parler de ce film, puisque c'est un film qui traite aussi de ça et du regard sur soi. C'est l'adaptation d'un film américain qui s'appelle I Feel Pretty.
Belle.
Et en français, ça s'appelle Belle, Belle, Belle. Et c'est clairement aussi pour ça que le film m'a touchée, c'est que la thématique, c'est une fille qui ne se voit pas comme elle est et qui finalement pense qu'elle doit ressembler à autre chose pour réussir, être aimée, etc. Alors qu'en fait, elle est déjà exactement parfaite comme elle devrait être. Mmh. Et elle s'en rend compte à la fin en pensant qu'elle a eu un truc de magie qui l'a fait se transformer. Quand elle se rend compte qu'en fait, elle a toujours été comme ça, elle réalise qu'en fait, elle devait depuis le début s'aimer telle qu'elle était et que ça ne l'empêchait
si seulement
absolument pas.
On pouvait. Fait un grand pas. Tu sais, c'est quoi Alors, je me vois toujours pas. Je suis aussi atteinte de dysmorphophobie. je me dis... Heureusement, les gens ne me voient pas comme je me vois.
Oui, tu sais, quand même, tu as de la distance.
Je me dis, je sais que personne n'est en train de se dire, mon Dieu, qu'elle est grosse. Voilà.
Donc, oui, c'est, je vois ce que tu veux dire. C'est déjà un pas déjà, de côté.
Oui, oui. Tu vois, je ne me dis pas que les gens sont en train de me juger.
Ouais.
On va revenir déjà sur le début de ta vie, hein, parce que tu es une première de la classe, une enfant ouais. timide, mais qui manque cruellement de confiance pendant, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à...
En fait, je n'ai jamais vraiment expliqué pourquoi j'étais en effet très timide, très renfermée. Je suis devenue assez extravertie, mais je pense que j'ai compris à cet âge-là que ce serait une arme pour moi et que cette, entre guillemets, le maniement de l'autodérision et de la surenchère serait une façon pour moi de mieux me cacher quelque
l'humour.
Part. Oui, à travers
tout
justement...
Suite, là, tu avais l'humour déjà,
je pense que je suis devenue... Voilà, c'est à peu près à l'adolescence que j'ai su en faire un outil. D'accord. Parce que quand on est plus jeune et qu'on est un peu rigolo, un peu le clown, on va dire que c'est pas... on peut pas en faire un outil de manipulation, c'est une nature. Je pense que j'étais assez rigolote quand je vois des vidéos de moi de 5-6 ans, je fais du spectacle avec mes cousines, voilà, mais il y a rien de particulier. Mais vers l'adolescence, vers 12-13 ans, j'ai commencé à comprendre que ça pouvait avoir un pouvoir, que l'humour pouvait
Alors, au début, c'était un moyen de défense, et après c'est devenu une arme.
En fait, c'est les deux, puisque moi l'autodérision, c'est aussi pour contrer c'est, je pense, une des définitions d'ailleurs de l'autodérision, c'est peut-être pas que la mienne, qu'en fait plus vite tu t'auto
Tu te moques ça, de toi, moi plus, on va se moquer
voilà.
de toi.
En fait, tu empêches tout de suite, c'est par soleil. C'est genre,
contre-attaque.
C'est bon, vous pouvez pas y aller, j'ai déjà dit que j'étais grosse, moche, bête. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est aussi ça que j'ai très vite mis en avant. C'est genre, je survendais. Si quelqu'un, un jour, je sais pas, je me souviens quand j'étais ado, j'avais des potes, parce que j'avais les cheveux qui, quand il pleuvait, j'avais les cheveux qui frisaient, ça faisait des petits cheveux sur le
mousseux,
haut. Voilà.
Mousseux.
Et j'avais un copain qui m'avait surnommé au collège Poil de Bite. Parce que ça faisait plein de petits trucs au-dessus de la tête, ce qui était complètement vrai, hein, je pense factuellement. D'ailleurs, Blaise, je t'embrasse si tu nous écoutes, parce qu'il s'appelle Blaise. Et du coup, c'était devenu, c'est-à-dire que je pense que ça m'avait certainement heurté et blessé sur le
Dès
moment.
Dès qu'il pleuvait, tu le
et
disais.
Et du coup, c'était moi qui en rajoutais, qui disais, « Ah, t'as vu ?» En fait, limite, j'attirais le truc parce que, au lieu de tout de suite me cacher et d'essayer de tout faire pour les enlever, bah, au contraire, j'étais devenue, eh bah ouais, bah, limite, je pouvais m'écrire poil de bite sur mon sac à dos. Quoi. Non, mais c'était, plus, voilà, c'était ce truc de contrer plus gros que la personne qui peut t'attaquer.
Je l'ai fait
mais ça,
tellement.
C'est une défense énorme, mais je l'ai toujours, ça.
Ouais, je l'ai fait tellement. Et c'est vrai de dire que je suis grosse avant que. Quoi que ce soit, que quelqu'un regarde le truc, quoi. Mais alors ça, j'ai arrêté aussi. C'est merveilleux. Quand t'arrêtes, ça fait du bien.
Les gens
mais
me disent d'arrêter.
On a une amie commune
les gens
qui
me
fait
somme
ça,
d'arrêter.
Elodie. Elle est merveilleuse.
Aussi, ouais, bon, on se renvoie la balle souvent.
À chaque fois qu'on
la
voit, on la trouve tellement merveilleuse, Elodie Frégé. Et puis, elle est toujours en train de se dénigrer.
Exactement.
C'est incroyable.
Pareil, elle aussi, si elle voit des vidéos, des photos d'elle de l'époque.
Ah, qu'est-ce que c'était belle.
Voilà, ouais.
Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport quand même dans le manque de confiance? T'as quand même, à 5 ans, tes parents sont un peu au top de leur gloire. Enfin, ton père est batteur pour Alain Bachung.
Notamment.
Tout le monde sait aujourd'hui, c'est quand même de notoriété publique que la chanson Osé Osé et Joséphine, c'était un gimmick qui est né un petit peu grâce à toi.
Oui.
Et donc, ta maman, elle, faisait partie du duo À cause des garçons.
Exactement. C'était sa première et
dernière chanson. Laurence
Heller. Elle s'appelle Laurence Heller. Et c'était sa première et dernière chanson. C'était pas du tout une vocation. C'était plutôt les années 80. Où
Parce qu'après, elle est dans la mode, ta
voilà,
mère.
Elle travaillait déjà. Et même pendant sa période de promo.
Donc, déjà, en plus, il y a la mode. Et donc, il y a le côté. Oui. C'est quelqu'un de
c'était,
grande, de mince.
C'était une grande dame de la mode, déjà et physiquement. Voilà. Très belle, très mince. Et en plus, qui était très puissant dans le milieu de la mode de ces années-là.
Ce que je voulais dire, c'est pas leur succès, mais c'est le fait qu'ils soient peut-être un peu absents, qu'ils soient pas forcément tout le temps là. Est-ce que déjà, le fait qu'on t'accorde pas peut-être toute l'attention qu'un enfant de 5 ans a besoin
m'allonger, du coup.
Non, mais
est-ce
que tu penses, non, mais le manque de confiance, quand même.
Bah,
il faut qu'on ait posé un regard sur nous.
Surtout que c'est l'âge où mes parents ont divorcé.
Ah,
et
plus,
ça, forcément, ça cristallise. Ils ont divorcé à 5, j'avais 5 ans et demi. Et je pense
qu'il
n'a
pas
ça...
aimé le duo.
Je pense que l'un et l'autre étaient en effet déjà peu compatibles. Quand je les vois aujourd'hui, je rigole de me dire, mais comment, à un moment, ils ont pu...
Bah regarde, si la compatibilité, c'est toi.
Oui, c'est exactement leur seul point de compatibilité, c'est de m'avoir fabriqué. Mais vraiment, ils n'ont rien à voir. Après, je sais que Lady, il y a plein de... Mon mec et moi, on est très différents. Mais on a aussi des points que je ne trouve toujours pas chez mes parents aujourd'hui.
Il n'y a rien.
Enfin, en tout cas, je les vois pas. Mais je pense que oui, je devais avoir... Mais après, je les suivais pas mal quand même. J'ai grandi, moi. Je suis partie dans les années 80. C'était l'époque où on s'en foutait. Moi, je grandissais dans les studios d'enregistrement, dans des coulisses d'émissions de télé, de concerts. J'ai mille et un souvenirs de
mais
mon
90
enfance.
Plutôt, toi, parce que t'es
dans 84. Du coup, 84, mais quand même, 90, j'avais 6 ans. Donc, mes 6 premières années de vie, c'était dans des studios, dans des fêtes, sur des plateaux. J'accompagnais ma mère en promo des émissions de Sébastien et je ne sais quoi en coulisses et c'était un peu rock'n'roll parce que c'était aussi l'époque qui voulait ça, mais j'ai pas souvenir d'avoir été complètement isolée de cette partie de leur quotidien.
Ils sont occupés de toi. En tout cas,
il y avait des gens pour s'occuper de moi
voilà,
aussi.
L'amour, tu l'as reçu.
Je l'ai reçu, bien sûr. Déjà, je ne peux pas être 100% sûre de ce que j'avance, puisqu'on n'a plus, j'ai plus l'âge. Je n'ai pas, par contre, la capacité de me souvenir de mes 2-3 ans.
C'est une sensation ?
En sensation, je n'ai pas la sensation d'avoir été pas regardée. Mais je pense que forcément, il y a quelque chose qui a dû se cristalliser à un endroit pour que j'ai envie autant de faire ce métier
ouais,
plus tard.
C'est fou.
Je ne pense pas que ça puisse venir de juste l'envie d'amuser la galerie. Il y a forcément un besoin d'être dans la lumière qui n'a pas dû être comblé un moment dans mon passé. Mais je ne peux pas vraiment me mettre doigt dessus de manière très, très, très précise. À part qu'autour du divorce de mes parents, c'était compliqué parce que ma mère est partie pour quelqu'un d'autre.
Wow.
Et du coup, c'était violent parce que je sais qu'elle est partie... Je ne l'ai pas vu pendant un petit moment et tout. Donc, il y a eu peut-être un moment d'absence là, à cet endroit-là où je suis objectif.
Il suffit de. Oui,
suffit voilà.
De,
parfois,
de
il
rien,
suffit pas.
Un mot, des fois. Donc,
exactement. Donc, je pense que dans ces eaux-là, ça a pu s'ancrer fortement.
Et tu sais que le désir de contrôle, ce besoin de contrôle, vient souvent. Donc, c'est la frustration au fait de ne pas avoir ce qu'on veut ou de ne pas réussir à faire exactement comme on veut.
Oui.
Donc, la frustration et le contrôle sont souvent des traits de personnalité d'enfants qui ont vécu un divorce.
D'accord.
Parce que ils sont tellement impuissants
oui.
face à ce qui est en train de
oui.
se passer qu'après ils ont envie de contrôler
ah
des
bah
choses.
Ça, bah ce serait ouais. tout à fait très logique pour moi et ma personnalité, vu qu'en plus j'ai le souvenir, et ça j'en ai parlé en psychothérapie plus tard, que lors du. Chose d'ailleurs, que c'est, parce que dans les années 80, j'étais une des seules enfants divorcées. Hein. C'était encore
c'est
très,
vrai.
Très rare
bah,
hein.
bien sûr.
Dans la classe. Maintenant c'est l'inverse. C'est
ouais,
les
ouais.
seuls dont les parents sont encore ensemble. C'est rigolo.
Celui qui n'a qu'une maison aujourd'hui,
c'est
il est
ringard. Vraiment, exactement. Et du coup, moi à l'époque, c'était quand même, j'étais, je pense, la seule de ma classe. Et il faut dire que du coup, l'accompagnement psychologique était nul, n'existait pas. On n'accompagnait pas les enfants. On ne savait pas, il n'y avait pas ni même des articles qui parlaient de ça. Et je n'ai aucun souvenir que mes parents m'en aient parlé avant, m'aient demandé mon avis, m'aient demandé comment je le vivais, m'aient demandé si j'étais triste, si j'étais en colère, si j'étais malheureuse. On m'a rien demandé, on m'a mis devant un fait accompli. Et ça aussi, je pense que ça m'a forcément déclenché des angoisses,
ouais,
des anxiétés,
des phobies,
de n'avoir justement
de
eu aucun... Ouais, c'est sûr.
Alors, dans les années 2000, alors on a non seulement à cause des garçons, mais on a aussi la mode des régimes. Et,
ah oui, plus,
ouais. et là, moi, je me rappelle qu'on essayait tous les régimes possibles, et déjà... Il fallait faire un régime, c'est comme si c'était une obligation presque un peu. Enfin, dans tous les magazines, il
ouais.
y avait le régime de l'été, le
Bien
régime.
Sûr.
Et donc toi, tu commences un régime parce que genre juste, tu veux faire des photos, c'est ça ?
Ouais, c'est un peu plus compliqué. Déjà, je commence un régime parce que j'avais été, bah, par le biais de ma maman qui bossait donc, dans la mode, il y avait un directeur de casting qui m'avait repéré et qui avait demandé à ma mère, est-ce que je peux lui faire faire des Polaroids pour parce qu'il faisait du casting, il fait toujours d'ailleurs, il fait du casting sauvage, il s'appelle Brice Compagnon, c'est après grâce à lui que j'ai fait la campagne Benetton, c'est lui qui a fait toutes les campagnes Benetton, et il avait le magazine WAD aussi, je sais pas si tu connais ce
ouais.
magazine, donc c'est un mec qui bossait à l'époque donc avec ma mère au journal Elle, et donc il m'avait repéré quand j'avais peut-être 15 ans.
Ouais.
Et j'avais fait, grâce à lui, sans être dans une agence, donc plein de photos pour des campagnes,
D'accord.
dont Benetton, dont Le Printemps, dont plein de
Super.
Trucs
okay.
cool. Et donc, ça m'a évidemment, quand t'as 15 ans, c'est magique, tu gagnes en plus de l'argent. C'était fou de se dire, waouh, des sommes, à l'époque, c'était encore en francs. Je me souviens, j'avais touché genre 10 000 francs pour
wow.
un truc. C'était fou. Quand t'as 15 ans, c'est encore un truc que tu vois.
C'est avec des francs, on pouvait faire des choses avant.
Oui, déjà, en plus, bah, c'était pas directement dans ma poche parce que j'avais pas le droit de toucher l'argent, mais je savais que ça allait m'être utile. Et du coup, ça m'a donné envie, évidemment, de vouloir en faire plus, parce que je voyais que c'était facile, que ça marchait bien. Et on m'avait dit cette phrase, oui, si tu perds quelques kilos, tu pourras rentrer dans une agence. Parce que...
Tu vois, une phrase, non, c'est ce que je déteste,
bah oui.
des fois, un mot.
C'était factuel, c'était, voilà, nous, dans les agences, en général, c'est ça le rapport, je ne sais rien, on ne m'avait pas donné de chiffres, mais c'était, oh, je pense que si tu perds 4-5 kilos, tu pourras rentrer dans une agence, et on trouvera une agence, et tu pourras faire plus de photos, donc gagner plus d'argent. Et je pense que moi, ça m'a juste attirée comme une ado qui se dit, je vais pouvoir me faire de l'argent, quoi. Et donc, j'ai commencé un régime dans un but tout simple, de me dire, bah, je vais perdre des kilos
quelques
pour rentrer
kilos.
Dans... Et en fait, c'est devenu...
C'était quel régime ?
C'était, je me souviens, le régime, alors j'ai plus le nom, mais c'était un régime plutôt hyper protéiné.
C'est Ducan.
Il y avait, c'était un peu l'ancêtre de Ducan.
L'ancêtre.
Je sais même pas si ça s'appelait Ducan encore, hein, c'était en 98.
Le
tu
Ducan
vois,
de la paléontologie.
Bah, c'était,
de Ducan.
ouais, c'est ça, l'ancêtre, le fossile. C'était, tu sais, avec des œufs durs, des tomates.
Ah oui,
là,
oui,
ça,
oh là là, c'est
tu vois,
bah oui, oui, bien
basique,
sûr.
Protéines,
ouais,
basique,
ouais, protéines.
Protéines, légumes. Et j'ai fait ça, et ça a été, mais. Tellement, je pense aussi qu'à l'époque,
radical.
Le métabolisme, quand
ouais.
tu as 15 ans,
tu maigris.
Voilà, par rapport à des gens qui peuvent nous écouter, qui ont plus de mal au fur et à mesure.
On va en parler aussi, parce
voilà.
que c'est en fonction de comment tu t'es privé, ton corps, il ne réagit plus
ah
de la
ouais.
même façon. Hein,
ça, c'est encore un gros problème.
Ça,
et du coup, voilà, j'ai perdu, je pense, 5 kilos en 10 jours, quoi, à l'époque. Ça devait être fou. Et en fait, je me suis même pas rendu compte que j'avais perdu. J'étais là,
hey,
trop cool, j'ai moins faim, bah, évidemment, parce que tu manges presque plus. J'ai moins faim, je me trouve vraiment canon, c'est ouf, j'aurais jamais pu penser que je pouvais ressembler à ça. Et hop, et là, c'est genre, allez, je continue encore deux, trois, voilà, vraiment comme un truc de le dernier verre, quoi. Ouais, je continue encore 3-4 jours, de toute façon, j'ai plus très faim. Et après, d'un coup, t'es là, oh putain, j'ai changé de taille, là, je suis carrément, ah, c'est bien aussi, comme ça. Et hop, et là, c'est genre, en fait, il y a la peur après, parce qu'un régime intelligent, il y a la stabilisation, la phase de stabilisation, qui est réintégrée un par un des aliments pour reprendre au fur et à mesure une...
Ça, on n'était pas au courant à l'époque.
Voilà. Et donc, c'est dans cette phase-là que ça a été problématique. Si je pense que j'ai eu trop peur, j'étais là, oh, mon Dieu, ce corps, je veux que ça reste toute ma vie comme ça parce que je me sens trop bien et que je veux travailler et que ça va me permettre d'avoir aussi ça, ça. Et du coup, j'ai commencé à me dire, si je commence à faire un pas à gauche, je vais tomber et j'entends déjà que je pense que je pouvais rebasculer et reprendre plus. Et c'est là, je pense que le...
Toi, t'as une sagesse innée.
Le contrôle.
Quand même, hein.
Non, mais c'est vrai que le contrôle s'est installé. J'ai dû me dire, attends, là, si tu bouges un truc, c'est fini, tu reprends le double.
Ouais.
Et je me suis dit, t'as qu'une voie, c'est de plonger dans le moins. Et donc, j'ai tellement eu peur, je pense, de reprendre, que je suis partie dans l'extrême.
Ah, ok, d'accord. Ah, oui. Pardon, je croyais que tu c'est me parlais le moment... du moment où t'as cru que tu non. pouvais tomber. Pardon,
non, c'est le moment où je me suis dit, tiens, ouais. pourquoi je m'arrête pas et je commence pas à réintégrer les féculents de manière intelligente. J'ai fait, oulala, attends. Féculents, ça fait gros. D'un coup, j'ai diabolisé tout.
Attends,
les pâtes. J'en ai pas mangé depuis 2 mois. Non, je veux pas me remanger des pâtes. Et d'un coup, je pense qu'au lieu de prendre la voie de la sagesse, justement, qui aurait été de stabiliser ma nouvelle apparence, je suis restée dans. J'ai rendu tout ça très, très gelé. Et ça m'a fait, en fait, du coup, continuer la bien descente sûr. Jusqu'à. Oh non, mais au final, je suis arrivée à 43 kilos. J'ai dû perdre vraiment entre 15 et. Peut-être une quinzaine de kilos en. Je sais pas. En 2 mois, quoi. Ouais.
Mais après, combien de temps et après, ça a duré t'es restée à ce poids-là longtemps?
Je suis restée anorexique pendant un peu moins de 2 ans, pendant 1 an et demi. C'est en même temps extrêmement long et en même temps, j'aurais pu l'être toute ma vie.
Et tu
aussi.
Mangeais quoi par jour? Des pommes?
Une pomme, ouais, en général.
La dinde? Les gens mangeaient que ça, en fait,
C'était beaucoup les pommes. Ouais. C'était encore un peu aussi un peu l'époque de, tu sais, les diètes de pommes, les trucs comme ça. Je mangeais une pomme. D'ailleurs, j'ai une petite déformation qui est restée de ces années-là, où maintenant, quand je mange une pomme, c'est genre, je me rends même pas compte tellement c'est je mange tout. Je mange tout, toute la pomme. Les pépins, le tout. Oui. Sauf la tige. C'est devenu c'était tellement, vu que c'était mon seul repas, wow. Je mangeais donc tout, que aujourd'hui, je pensais que
t'allais me dire je mange plus de pommes parce que c'est l'enfer.
Non, j'en mange, mais je suis obligée de manger tout.
Moi, pour moi, la pomme, c'est synonyme de régime, de coupe-faim, et ça m'angoisse quand on me dit t'as faim, mange une pomme. Bah non, en fait, j'ai envie d'un éclair au chocolat.
Je vois ce que tu veux dire, je l'ai aussi.
Ça m'énerve quand on me dit prends une pomme ou prends des noix.
Enfin, en même temps, je mange des pommes souvent quand je suis dans une période d'un peu de restriction.
Bien sûr, parce que ça coupe la faim. Moi, tu sais, je suis un peu plus vieille que toi, c'était vraiment une époque où les coupe-faim commençaient à arriver, c'était n'importe quoi. J'ai même ma mère qui m'a amené voir une diététicienne, mais sous mes supplications, parce que en fait, j'avais un problème, c'était même pas d'être grosse, c'était j'avais un appétit et j'ai un problème d'appétit. Ouais, mais depuis tout le temps.
T'as un gros estomac, quoi.
Ouais, et en plus, je pense, après, on m'a expliqué, c'est parce que je suis très musclée. Apparemment, les muscles aussi ont besoin de plus de calories par jour, donc c'est très bien, je crame pas mal, c'est bien. Mais donc, j'ai très faim et c'est très dur pour moi de me limiter. Et donc, j'avais supplié, j'avais dit, c'est la mode des coupe-faim, je veux prendre des coupe-faim. Ma mère m'avait amené. Tu sais comment s'appelait le coupe-faim? Il a été interdit, bien sûr, quelques mois après, Anexor.
Ah oui, carrément.
Oui.
Oui, donc on
pas
était
mal. Ta mère te fait prendre Anexor. Ça donnait l'envie de vomir, la nausée. Et puis, je me rappelle, je prenais une pomme, j'avais envie de vomir, c'était trop bien. Après, quand t'es amoureuse, c'est la première fois quand t'es amoureuse et que tu manges pas.
Ouais.
Mais en fait, toute ma vie, j'ai cherché cette sensation de ne pas avoir faim, d'où l'intérêt pour la cocaïne plus tard. Bref, continuons.
Tu vas me donner envie de plonger.
Deux ans. Non, c'est l'enfer. Deux ans.
Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que moi, pour le coup, le rapport à la nourriture, il était quand même toujours lié à la joie et à la fête et plutôt au plaisir. C'est marrant parce que ça, c'est peu de gens. Ouais. Moi, le côté quand je suis amoureuse, je suis tellement sur un nuage que je ne mange pas, ce n'est pas mon cas. Moi, c'est l'inverse.
Non, attention, quand t'es amoureuse et que l'autre, il t'aime pas, hein, quand t'as une peine de cœur.
Ah, d'accord, excuse-moi, parce qu'il y a aussi. Moi, je connais plutôt mes copines qui, quand elles sont au début d'une relation.
Elles mangent moins, oui.
Elles mangent plus tellement, elles se nourrissent que c'est de leur relation. Il y a beaucoup, beaucoup de filles comme ça, et moi, c'est l'inverse.
Toi,
c'est
quand t'es heureuse, tu manges.
C'est ça.
Mais même quand t'es pas heureuse, tu manges.
Mais c'est vraiment. Mais non, justement, quand je suis pas heureuse, je mange pas. Non, c'est l'inverse. D'accord. Moi, ça me remplit l'estomac d'angoisse. L'angoisse me fait un nœud qui m'empêche d'avoir...
Il y a toujours un début. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'on ne mange pas quand on est malheureux. Et après, justement, quand on va mal pendant longtemps, on mange, on s'empiffe à la Bridget Jones, quoi.
Alors, peut-être que je n'ai jamais été mal assez longtemps, alors. Parce que moi, je plonge très vite, très bas, mais je remonte. J'ai jamais eu des... Je ne peux pas te dire, pendant 2 mois, j'ai été mal.
C'est pour ça que je te dis, t'as la sagesse, c'est pour ça que je n'avais pas compris tout à l'heure, parce que je sens en toi qu'il y a une espèce de... Alors, il y a une espèce d'addict et d'excessive, et en même temps, il y a un petit modérateur en toi qui est là, comme une petite balance, qui est là et qui sait quand même où est-ce qu'il y a le danger.
Bah évidemment, ça fait... en plus
c'est pas ton signe, t'es pas balance.
Je suis ascendant balance, mais voilà. C'est suite aussi à tellement d'expériences, tellement de fois tu te gamelles, tu te relèves, bah au fur et à mesure c'est aussi l'expérience apprend, et l'âge, ouais, bah évidemment. Apprend. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui mon seul équilibre et ma seule possibilité de pas renier ma nature profonde qui est d'être une kiffeuse, une gourmande, d'avoir envie de tout goûter, tout et je trouve rien de plus triste aujourd'hui que de se priver
et de priver un aliment horrible. De quand tout. On te dit, moi je mange plus de pain ou je mange plus voilà. Ça, je peux pas faire ça.
Mais moi. Jamais, moi j'ai envie quand j'arrive dans un endroit, par exemple je sais pas une fête, un truc, j'ai envie de tout goûter. Ouais. C'est vraiment cet appétit-là de découverte, de curiosité, de saveur, j'adore aussi la gastronomie, les restaurants étoilés. Enfin, je ne pourrais jamais me dire, je ne profite pas de ce qu'on me propose, de ce qu'on m'offre.
Mais ça a un prix.
Voilà, exactement. Par contre, c'est ça que j'ai appris à intégrer, c'est que ce n'est pas sans conséquence et ce n'est pas sans prix, mais je suis contente de le payer parce que, oui, encore heureux, je le paye parce que j'aurais profité
bah, bien sûr.
Et j'aurais tout pris de ce que je pouvais à cet endroit-là. Là, donc, la rétribution, c'est de devoir à un moment, bah, voilà, plus pédaler à l'aquabike, plus d'un coup manger de pommes pendant des jours après. Mais ce n'est pas grave, ça les a valus. Parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui ne font que se priver, s'interdire, se dire « Ah non, demain j'ai ça, donc je ne peux pas. » Et qui en plus, donc qui kiffent jamais vraiment, et qui en plus se font... Enfin, ça, c'est d'une tristesse absolue.
On a la même conception.
De juste milieu, mais qui est chiant.
Mais avant d'arriver à ce juste milieu, donc tu te retrouves à 43 kilos, tu as un déclic, c'est ta maman quand même ouais, qui te tend la main.
Malheureusement, le déclic, c'est, voilà, c'est pas moi qui l'ai eu. C'est, je pense que ma mère, en fait, quelque part, c'est aussi une forme de... Je pense que ma mère, elle me trouvait très bien avant que j'arrive jusqu'à 43. Je pense qu'il y a une période, elle me trouvait, je pense, très jolie comme ça.
Et on aime bien que notre mère nous trouve jolie.
Ouais, forcément. Je devais être contente parce qu'elle-même étant très mince aussi, ça devait me plaire aussi de lui ressembler. Et un jour, on était donc en vacances à Marrakech et on était un soir dans un restaurant de couscous ou je ne sais quoi. Et genre, une énième fois, je n'avais rien mangé. Et je me souviens qu'elle m'avait dit ce soir-là, elle m'a dit, voilà, Joséphine, c'est simple, si tu te remets pas... En plus, ma mère, elle n'est pas du tout psy, hein, elle n'a pas une pédagogie folle. Elle m'a dit, si tu te remets pas à manger, ça, on peut même pas dire...
Ouais.
C'est juste que c'était cash. Je vois bien qu'il y a un problème. Si tu te remets pas à manger, genre demain, c'était vraiment un truc de... Dès qu'on a atterri à Paris, je t'emmène à l'hôpital. Et moi, comme je suis hypochondriaque, le mot hôpital, ça m'a foutu les jetons. Parce que j'avais vu déjà en plus des petits reportages sur des meufs dans des centres et tout. Voilà. Et j'ai fait, ok, elle plaisante pas. Et en fait, je pense que j'avais besoin de ce stop. Parce que moi, mon propre gendarme n'était pas capable de m'autoriser à me dire stop. Et je pense que j'ai eu en même temps peur, donc en effet, de la menace de l'hôpital. Et aussi, j'avais, je pense, besoin de lâcher et de souffler, de voir que quelqu'un était là pour moi. Et quelque part, ma mère, de cette façon un peu maladroite, me disait, je suis là et je ne vais pas te lâcher. Et finalement, sauf que je n'ai pas, encore une fois, été accompagnée de la bonne façon. Et je pense que cette peur et le fait qu'elle me dise, si tu ne manges pas demain, je me suis dit, bon, bah, demain, je vais manger. Et je me souviens très bien que c'était immédiat parce que je me souviendrai toute ma vie, dès le lendemain.
C'est fou.
Comme si, tu vois, comme si on avait brisé un sort, ouais, tu ouais. vois. Dès le lendemain, au petit déjeuner de l'hôtel... Je me suis mise à manger des crêpes, tu sais, les crêpes marocaines trop bonnes, là, tu sais, au miel, là, un peu en carré, là.
Et t'as pris frites, du plaisir Tu t'es dit, mon Dieu, en fait, pourquoi je me suis privée
Non, mais non justement, non, c'était terrible, parce que ça a été des années, mais de mes pires années.
Mais la première fois où tu remanges, horrible.
C'était, bah, justement, c'est ce fameux plaisir.
Coupable.
Qui était le plaisir que j'ai ensuite démultiplié dans des crises de boulimie. C'était, en fait, j'ai créé ma première crise de boulimie. C'est que le retour à la nourriture diabolisée, le sucre, le gras, tout ce que je ne mangeais plus. Le lendemain matin, en ayant ce premier petit déjeuner qui était « Ah, ça y est, elle remange ».
T'as mis en route le mécanisme.
J'ai fait exploser le mécanisme tout de suite. J'ai fait « Ok, c'est ça ma drogue maintenant, ça y est, c'est ça. Je suis addict à, c'est ça que je voulais en fait. » Et tout ton corps se souvient que finalement, il n'attendait que cette crêpe au sucre et à l'huile et au miel. Et du coup, pareil, dans l'autre sens en fait, au lieu de réintégrer intelligemment... Un peu de sucre parce que ton corps, il n'en a pas eu pendant 2 ans.
Il n'y a pas la raison,
non, il n'y avait pas la place. Et donc, tu te remets à manger, sinon tu vas à l'hôpital, ça s'est transformé en je fais des crises de boulimie où d'un coup, il faut que j'ingurgite comme si on allait me reprendre et me dire tu n'as plus le droit de manger. Et c'était devenu du coup extrêmement maladif très rapidement. C'est-à-dire, vraiment, du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des crises de boulimie et ça m'a tellement terrorisée parce que dis-toi bien que ça fait 2 ans que tu tiens. Avec une pomme par jour pour respecter ton idéal, à quel prix ? C'est-à-dire que j'étais épuisée de cette vie. C'est aussi très important de préciser que les gens qui sont anorexiques n'ont pas de vie sociale. Enfin, c'est tellement violent et tellement compliqué d'avoir une vie sociale sous couvert du coup de scénarios de mensonges pas possibles où j'inventais « je peux pas venir au dîner parce que j'ai ça avant, mais je mangerai rapidement avant pour vous rejoindre pour le... » Et c'était complètement faux. Je ne mangeais pas avant parce que je ne pouvais pas aller au restaurant. Donc, je ne pouvais pas fêter des anniversaires. Donc, je n'étais pas dans la joie, je n'étais pas dans la fête, je ne pouvais pas boire d'alcool. En fait, j'étais hors sociabilité, hors vie sociale, c'était d'une tristesse. Ma vie était très triste.
Mais surtout pour un tempérament comme le tien, qui à la base est une vraie profiteuse et gourmande.
Ah bah oui, justement, j'étais plus.
Il y en a qui sont pas gourmands. Hein. Moi, je vois ma mère, c'était un traumatisme pour moi de voir ma mère qui n'est pas gourmande. Et je me dis, mais pourquoi elle mange pas? Pourquoi elle continue pas? Pourquoi elle se resserre pas? Ouais. Moi, je suis comme toi. C'est-à-dire que je peux pas ne dire non à quelque chose qui me fait envie. Je ne peux pas.
Et ouais, je fuyais, du coup. Je ne venais pas. Donc, j'étais hors sociabilité, ce qui était aussi une grande souffrance pour moi. Donc, dans ces années-là, donc 2 ans comme ça, tu te dis, tu coupes ce cycle en ayant une première, on va dire, crise fondatrice de boulimie. Et à ce moment-là, c'était tellement terrorisant pour moi de me ressentir pleine, finalement, parce que j'avais d'un coup très mal au ventre. En plus, ton estomac s'est rétréci, donc tu te retrouves avec des maux de ventre terribles très vite. Et en fait, ça a été à ce moment-là que la boulimie a pris aussi le contrôle de moi. C'est-à-dire que j'ai été, au début, je faisais en fait ma remontada vers, finalement, mon enfermement vers la boulimie. Ça a été d'abord tellement un refus d'accepter qu'en fait, j'étais en train de devenir boulimique que je faisais une crise et après... Par exemple, je donne un exemple, tu fais une crise un lundi.
C'est quoi une crise?
Une crise, c'était, alors là, c'était des années de crise où c'était, tu sais, comme vraiment une... tu vois, t'as vu le film The Whale avec Brendan Fraser?
Non.
C'est déjà parce qu'il y a vraiment des scènes filmées de boulimie où le mec, tu sais, c'est un mec qui est obèse au point de ne plus pouvoir se lever, tu sais, vraiment, il est obèse plus que morbide. Et en fait, c'était, t'as l'impression que tu n'es plus dans ton cerveau. Enfin, c'est comme si d'un coup, si on me filmait... J'allais dire, bah non, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Enfin, vraiment, comme un truc de somnambule. J'achetais plein de paquets de gâteaux dans une boulangerie ou dans un supermarché.
Du sucre, alors?
Oui, que du sucre. Ah oui, voilà, très important aussi que 90% de mes crises étaient sucrées. Parce que j'ai toujours plus aimé le sucre. Je pense que j'avais dû me faire aussi des trucs avec des sandwichs ou des... Mais beaucoup moins. Et tu te mets à tout ouvrir et à manger comme ça, en regardant un point fixe, en fait. Je peux même pas expliquer. C'est-à-dire que d'un coup, tu regardes un point dans le vide et tu manges. Et t'enchaînes, sans parler, sans bouger, et jusqu'à vraiment physiquement, parce que moi je me suis jamais fait vomir, c'est aussi important de préciser que ni dans l'anorexie, ni dans la boulimie.
Hématophobe,
on dit. Ouais, la peur du vomi, ouais. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée de ça. J'avais une peur panique du vomi, donc je mangeais tellement.
Alors
que je ne pouvais plus respirer.
C'est de l'hyperphagie.
Voilà, du coup,
en
ça devenait. C'était clairement une conséquence.
L'hyperphagie, c'est la conséquence de la boulimie.
Bah oui,
d'accord.
Ah oui, forcément.
Okay.
C'est que ton estomac.
Pas une maladie, l'hyperphagie.
Ah, je ne sais pas, en tout cas. D'accord. Moi, je sais que du coup, mon estomac était tellement rempli, tellement large que je ne pouvais du coup plus respirer.
Le diaphragme.
Voilà, remonter. Et je me souviens, tu vois, tu te retrouves avec tes boîtes de trucs éventrés sur ta table basse. J'ai des flashs encore de ces scènes-là. Et tu es comme ça sur ton canapé. Et tu peux plus respirer. Chaque respiration te coûte tellement t'as mal. Et après, tu dois attendre le nombre d'heures qu'il faut pour être pour que tu commences à entamer un processus. Et tu te sens tellement mal après. Donc, quand tu te réveilles de ce moment, en fait, complètement somnambule de bouffe. Donc, ça, c'était mes premières années où j'étais comme ça. Et après chaque crise comme ça, le petit gendarme de l'anorexie qui n'était pas parti, je me punissais tellement pour reperdre, entre guillemets, pour annuler cette crise,
bien sûr,
que pendant une semaine, mais je ne mangeais mais vraiment rien. Sauf que, comme j'avais toujours en mémoire cette crise qui était tellement bonne et incroyable, ça m'avait tellement remis le truc, qu'en fait, je faisais un jour une crise, 5 jours de l'eau, rien. Donc, on va dire, péniblement, je me restabilisais
au niveau du poids, on va dire.
Que au niveau du poids.
Il n'y a pas de stabilité.
Voilà, dans ma tête, c'était genre, je reperdais grâce
à
ces 5 jours d'affamée. Voilà. Et ensuite, je refaisais une crise, je craquais de nouveau et je repartais sur 5 jours. J'ai fait ça pendant des mois, épuisant.
Les toxicos le font aussi. Hein. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir fait des semaines de débauche et des semaines de thé vert et yoga et des retraites.
Mais quand tu rechutes et que tu retombes, c'est insupportable. En fait,
on passe d'un extrême à l'autre.
Ouais, mais à des niveaux fous.
À
des niveaux affamés, dingue de pour manger pour 10.
Mais le corps prend cher.
Et c'était horrible parce que c'est là où c'est pour ça pourquoi tu retrouves, t'arrives très vite à 80 kilos en fait malgré tout, c'est parce que ça fonctionne, sauf qu'en fait ton corps à chaque crise, c'est pas sans conséquence qu'en fait il s'est tellement affamé qu'il prend x 10. Donc je mettais de plus en plus de temps à pouvoir reperdre suite à une crise, donc ça me rendait encore plus faible de pas y arriver. Et comme j'avais en tête les jours de crise qui étaient tellement bons et que j'attendais finalement, je me suis mise à rapprocher les jours de crise. Au lieu de faire 1 jour et 5 jours, j'ai fait 1 jour et 3 jours et hop, et j'ai perdu pied. C'est-à-dire que j'étais plus capable de reperdre entre 2 crises ce que j'avais pris. Et c'est comme ça que j'ai pris 35
bien
kilos
sûr,
comme ça.
Le fameux régime escalier.
Et voilà, c'est devenu comme ça, pareil, je pense qu'en l'espace voilà, de 2 mois comme ça, essoufflé de ne pas pouvoir reperdre assez entre 2 crises, ça a fait bam, tout stocké. Et je suis passée de l'autre côté.
Tu te pèses plus, toi aussi, hein?
Non, c'est pareil, ça fait
toujours,
partie des stigmates.
J'ai foutu ma balance au régime.
C'était stigmate de l'anorexie aussi. Parce qu'en fait, quand j'étais anorexique, pareil, c'est des petites
pèses après chaque repas, quoi.
En fait, je ne me pesais pas après chaque repas. Enfin, je me pesais énormément, bien sûr, par jour. Mais je réalisais que... Donc, je mangeais quasi rien. Je buvais énormément de Coca Light à l'époque. Le Coca Zéro n'existait pas encore. Et du coup, je me rendais compte que je pouvais perdre 1 kilo juste en faisant pipi de 1 litre. D'un coup, je pissais tellement, ou du thé, ou du Perrier, ou je sais quoi, que je pouvais perdre moins 1 kg ou 800 grammes juste en allant aux toilettes. Ça m'a traumatisée dans le sens où je me suis dit, attends, ça ne veut plus rien dire. Le poids n'a plus de sens. Si je peux prendre 800 grammes ou en perdre juste en buvant plein d'eau ou plein de trucs. Donc depuis, je me suis dit, tu ne peux plus te fier à ça. Maintenant, mon outil, c'est mon miroir et certains vêtements et où je sais exactement comment ils me touchent à tel endroit de ma cuisse.
Il y a deux choses
qui
ne mentent pas, c'est les enfants et les leggings.
On m'a dit.
Non, mais franchement, je trouve que la balance, moi, c'est... il y a aussi quand tu deviens maman et tout, et quand tu vieillis, le corps il change. Donc, par exemple, j'ai vu que je pouvais me trouver bien en ayant 2 ou 3 kilos de plus qu'avant.
Et je faisais beaucoup de sport. Et aussi, je me suis mise depuis quelques années au sport et j'en fais pas mal. Je suis persuadée que ma masse corporelle est beaucoup plus importante qu'avant. Et c'est pareil aussi, je sais que le muscle pèse plus.
Voilà.
Et donc, pareil, je peux pas commencer à m'amuser à me dire, attends, dans ça, il y a combien de pourcents de muscle?
Oui, parce qu'il y a les balances maintenant qui calculent ta masse musculaire et tout, on n'en peut plus. C'est l'enfer.
C'est ça que je fais chez les nutritionnistes.
Il y a encore beaucoup de régimes là, qui ne me plaisent pas du tout. Moi, je déteste les régimes. J'ai pas envie de le dire, mais le PBS, là, où il y a des régimes où tu as un coach sur WhatsApp qui est là à te donner des trucs.
Ah,
enfin, c'est pas anodin. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut dire, je pense, pour les jeunes aussi qui t'écoutent. Parce qu'en plus, tu es bien suivi par les jeunes, toi.
Oui, mais dans le sens où je diabolise exactement le fait de pouvoir être gourmande et en même temps d'aller après suer à la salle de sport.
Et parce puis tu fais des photos géniales, drôles, où t'as pas honte d'exposer du gras ou de la cellulite. Il n'y a pas de retouche et tout, ça fait du bien.
Oui, ça c'est vrai que ça fait partie des.
C'était drôle, des souhaits, les têtes que tu fais.
Oui, la dérision.
Oui, c'est toujours comme si t'étais.
En fait, les têtes que je fais, c'est cette série de photos-là. À la base, c'est inspiré. La première série que j'ai postée, c'était en Martinique. Et en fait, avec mon mec, on était passionnés. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a déjà vu une fois. Des couples où le mec est obligé de prendre sa meuf en photo qui pose en se croyant égérie maillot de bain. Et le mec, il est au bout de sa life, il a juste envie d'aller boire une bière au bar et il est obligé de faire photographe Instagram. Et donc, nous, on se marrait de voir et la meuf qui se trouve sublimissime et qui est souvent 2 fois sur 3 un énorme ton et qui est comme ça à moitié dans le sable et tout. Et je me souviens que c'est suite. On s'était marré de voir une meuf comme ça sur la plage, la fameuse plage où j'ai pris après la photo. Et du coup, mon mec a fait genre, viens, je refais pareil. J'ai commencé à partir en séance photo. Mais c'est la photo de la meuf qui se pense sexy mais qui a le regard vide. Et c'est venu de ça, ce truc de blague.
C'est ça, ce regard vide. Il est
le regard vide de la meuf. Voilà. Mais c'est vrai que oui, je pense que c'est important aussi toujours dans un souhait de pas de décomplexion, mais pour moi, la transparence, déjà, je suis quelqu'un qui ne maquille pas. Enfin là j'ai mis du rouge à lèvres ce matin mais je ne mets pas de fond de teint, tu vois, je ne mets pas de dans ma vie je ne mets pas de filtre, on va dire. Moi, le maquillage c'est une forme de filtre,
mais moi je me filtre beaucoup.
Ah ouais. C'est vrai.
Le fond de teint, je me rends compte de ça, je me dis que c'est une très grande addiction, le fond de teint.
Ah ouais, bah tu vois, moi ça dans l'autre sens. Je déteste le fond de teint et quand je suis en tournage, je ne le supporte pas trop d'ailleurs.
Non, les femmes qui mettent du fond de teint comme moi et comme
plein de femmes, bien sûr.
C'est une addiction, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus voir sans.
Ah bah tu vois, oui, Elodie, elle a ça aussi. Pour le coup, non, moi je.
Bon, mais elle est pas là, elle prend cher.
On l'aime. Non, mais alors qu'elle est sublime, tellement sublime au naturel. Mais
elle est encore mieux, oui.
Elle a une petite addiction aussi au fond de teint, mais moi, c'est dans l'autre sens, je déteste ça et donc je pense que ça va avec. Je n'ai jamais forcément beaucoup pris soin. J'ai jamais été la qui faisait des soins du visage, des soins des cheveux. Donc je pense que ça reflète aussi tout simplement ma nature.
Tu te trouves jolie ?
Non.
Tu peux pas dire ça ?
Non. Par contre, je me dis toujours un truc, parce que je sais que j'ai fait des photos pour des marques et que j'ai été quand même mannequin pendant quelques temps. Mais je disais toujours, et je pense aussi que c'est parce que il avait dû me dire ça à l'époque aussi, le mec qui m'avait découvert, c'est que moi, je me trouve pas jolie, mais j'ai une gueule.
Ah oui,
et je dis toujours ça. Je dis, bah oui,
mais jolie
parce que moi, je fais du mannequin parce que j'ai une gueule. Parce que je suis pas classique. Je disais toujours ça. Et mon mec, il me dit, mais non, Joséphine, je te trouve jolie. Et je fais, oui, mais parce que je suis pas classique, parce que j'ai une gueule. Il fait, bah non, t'es jolie. Donc, du coup, c'est toujours le truc. Moi, je me trouve pas jolie. Mais en effet, je trouve que j'ai un visage particulier.
Bah, un visage doux, déjà. Et
ah ouais, tu trouves doux?
Solaire, quoi.
Ah bah, je sais pas.
Bah ouais. Et puis c'est vrai que tu changes. Moi aussi, tu disais, j'ai eu 2000 gueules. Moi, je me reconnais pas. Mes amis ne me reconnaissent pas sur des photos de 15, 17, 20, 25, 30. J'ai changé de gueule, de coupe tout le temps. Par exemple, enfant, je n'ai pas ma tête.
Moi, pas forcément, au contraire. J'ai eu 30 ans les mêmes cheveux longs comme ça.
Mais tu as changé beaucoup de couleurs. Mais depuis quelques années.
Non, de poids énormément, de look un peu, mais de couleurs, c'est récent. Là, c'est vraiment plus depuis Planqueur. Hein. Là, je suis rousse pour un film que j'ai terminé et j'ai été blonde pendant 5 ans pour Planqueur. J'aimais bien. Moi aussi j'aimais beaucoup, mais après c'était beaucoup dans pareil, tu vois, je suis pas très un peu fifi et j'avais pas envie de m'entretenir, donc je suis redevenue brune pour un autre film aussi où il fallait que je sois plutôt plus dure, et ensuite à partir du brun je suis devenue rousse parce que il fallait aussi comme pour Planqueur en fait, fallait quand t'es dans un groupe avec plusieurs filles, ils aiment bien
faut se démarquer,
dénoter, donc là j'ai basculé sur du roux.
Ah oui, il y a la brune aux cheveux bouclés, il y a la brune aux cheveux raides, tu pourrais pas,
c'est ça.
Et bon, du coup, avec Elodie, quand vous sortez, vous êtes les rousses, quoi.
Maintenant, mais alors que moi, c'est marrant, Elodie, pour moi, ça restera. Moi, je l'ai rencontrée, je la connais depuis 20 ans. Elodie, c'est ma blonde. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Pour moi, elle sera toujours associée à cette couleur de cheveux. J'arrive pas à l'associer aux roux.
Non, ça y est, moi, ça commence.
Elle en a eu plein des roux en plus, hein. Elle a eu le roux très clair.
Bon, on a déjà fait l'émission d'Elodie. Allez. Comment tu t'en es sortie de cette. Enfer, parce que moi j'appelle ça un enfer et je sais même pas combien d'années déjà tu t'es retrouvée à faire des crises comme ça plusieurs fois par jour et puis d'un coup plus manger.
Ça, on va dire l'intensité maximale comme ça, ça a été pendant au moins 3-4-5 ans quand même. Hein. C'est énorme. Et être en souffrance parce qu'après,
Tu avais, par exemple, tu avais des relations amoureuses à ce moment-là.
Alors justement, oui, c'était horrible. Là, c'était toutes les époques où je me cachais, où je mentais. Et quand je t'allais masquer les crises, hein. J'étais encore complètement dedans. C'est les années aussi de ça.
Je me souviens pas parce qu'on a fait la fête pas mal ensemble au Baron.
Oui, mais ça, c'était l'époque où justement, c'est quand je faisais les crises. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, si on faisait la fête, c'est que donc je buvais plein d'alcool. Donc ça faisait partie des jours où c'était les jours associés à l'excès, parce que l'alcool, ça fait grossir, c'est du sucre. Et certainement que les lendemains où on se voyait à ces soirées, je devais plus manger ou manger que de la salade verte et de la soupe jusqu'à la prochaine semaine. C'était ces années-là, clairement, oui.
On a fait nos premières scènes ensemble.
Ouais, c'est exactement. Très
drôle, hein. Guitare voix. Paris, guitare voix, je me rappellerai toujours.
Et ouais, moi aussi.
C'était bien avant Joséphine Hose, juste avant.
Ouais,
quelques années avant. Et moi, c'était avant Rose, d'ailleurs, je m'appelais pas Rose.
Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était des années, mais en même temps très libres. Hein. C'est des années où étrangement, quand j'étais anorexique, je ne suis sortie avec personne. J'étais personne, je ne plaisais à personne, alors je me trouvais sublime. Et en fait, quand je suis devenue, toute proportion gardée, on va dire ronde, parce que je fais 1m69, je faisais 80 kilos, c'est pas forcément très gros, c'est plutôt vraiment rond. Et je rentrais quand même dans des vêtements de la grande 42. Distribution. Voilà, c'était entre 42 et 44.
Ouais, plutôt quand 44, même, quand ouais. T'as la chance d'être grande.
Oui, voilà, exactement. C'était pas non plus, on disait pas, là, on peut pas me qualifier de grosse quand on me voyait. J'étais ronde.
De toute façon, maintenant, oui, grosse, il faut arrêter.
Voilà, déjà, en plus, et c'était bien avant qu'on puisse. Mais même quand on disait juste grosse pour grosse, on pouvait pas dire de moi grosse, mais j'étais vraiment ronde.
En tout cas, je me souviens pas de toi. Oui, de grosse. Oui, mais ronde. Surtout, t'avais une forte formes. Poitrine.
Oui, mais voilà, mais bon, équivalente à mes fesses aussi, quand même, hein, en proportion. Et ben, dans ces moments-là, justement, je plaisais énormément. J'ai eu des relations, j'attirais du coup beaucoup plus les hommes, etc.
C'est fou,
mais je me sentais très mal, j'avais du mal. J'étais complexée, j'avais du mal à faire l'amour avec la lumière. J'étais pas dans un truc de justement, j'avais du mal à accepter mon corps pendant toutes ces années. J'ai fait beaucoup de travail aussi pour accepter d'arriver à un point où j'acceptais mon apparence quand même, en fait.
C'est quoi ce travail?
Ce travail, je pense que j'ai aussi vu des psys, mais pas forcément des psys pendant très longtemps. Parfois, je faisais des formations, tu vois, des trucs courts. Mais je pense que c'est aussi...
Thérapie brève, ça fonctionne bien aussi, des fois, des ateliers.
Ça m'a aidé. J'ai fait aussi des trucs alternatifs, des médecines parallèles qui m'avaient pas mal aidé à l'époque, la kinésiologie.
Ah oui, j'adore.
Et j'avais vachement...
C'est le corps qui parle, en fait.
Ça m'avait exactement vachement aidé sur la compulsion alimentaire. J'ai des souvenirs de séances qui m'avaient vraiment coupé le besoin d'aller dans un extrême, forcément. Et donc ça m'a, au fur et à mesure plusieurs années, à une apparence qui m'a déjà tout simplement donné envie de pouvoir me représenter au monde. Au monde, quand j'ai au monde, c'est en tant que comédienne. Parce que toutes les années où même on s'est rencontrés, j'étais plus comédienne. Parce que je ne m'acceptais pas. Non, mais parce que c'était suite à une énorme frustration. Je me détestais tellement en termes d'image que je refusais de passer des castings, d'être vue. Et donc, je me suis mise à écrire, à être plus dans l'ombre, à parfois chanter sur scène, mais vraiment derrière ma guitare. Et c'était pas du tout un. Le fait d'être sur un écran avec cette apparence me révulsait. Et c'est pour ça que je n'ai plus fait de ce métier pendant 6 ans. Du tout. Wow. Plus d'essais, plus de casting, plus de photos de comédienne. Mon agent, j'avais tout mis en stand-by jusqu'à mon premier spectacle, où je suis revenue par la scène et à travers l'acceptation.
Ça, du coup, maintenant, quand tu le dis, le titre du spectacle est encore plus
symbolique. Ouais. J'ai osé finalement montrer telle que j'étais à ce moment-là, mais parce que j'étais arrivée aussi à une forme d'équilibre. J'étais toujours plutôt quand même un peu ronde, j'avais quand même reperdu du poids par rapport à ces années d'enfer de yo-yo extrême.
Tu étais en robe un peu de princesse de poupée avec un diadème.
Ouais. Et vraiment, tu vois, très court, très moulant, tout sain dehors. Tu vois, j'étais en surexposition quand même de moi, alors je ne me trouvais pas du tout canon, loin de là.
Il fallait y aller tous les soirs sur scène, c'était déjà habillée comme ça.
Ouais, mais ça, tu vois, c'était déjà une forme aussi. Ça
rejoint, de thérapie,
Oui, et puis c'était l'autodérision avant tout. C'était une forme de dire, regardez, je ne suis pas une danseuse étoile et pourtant, je viens comme ça.
Oui, c'est parce que dans ton spectacle, tu disais, oui, j'ai des problèmes. Non, mais je suis grosse. Enfin,
je disais que j'adorais. Bah, je parlais beaucoup de nourriture. D'ailleurs, c'est un fil rouge de mes spectacles. Dans tous mes spectacles, je parle de nourriture. Et dans le troisième spectacle que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai introduit le concept de la grosse dame, la fameuse grosse dame.
Ah, tu vas avoir un personnage à part, peut-être.
Bah, c'est une forme. J'explique en fait ce principe de la grosse dame. C'est une forme aussi de banalisation, mais de vulgarisation du concept justement de compulsion alimentaire.
Même de thérapie, parce qu'une fois qu'on conscientise ce qui est inconscient, c'est-à-dire cette grosse dame, c'est l'inconscient,
exactement,
ou autre chose dans nos cas, une fois qu'on le conscientise, on peut agir dessus. Et puis on a reçu Marine Giovannini, qui a une histoire incroyable, qui est sonothérapeute, qui dit en fait, on consomme sur une émotion tout le temps. Donc, et de savoir que l'émotion, elle est impermanente, c'est-à-dire l'envie de manger tout de suite maintenant, ça va passer.
Oui, bien sûr,
Il faut s'asseoir dans cette émotion-là. Oui. C'est très difficile. Oui. Hein. Mais si tu arrives à t'asseoir suffisamment longtemps, ça va passer et tu vas pouvoir traverser ça.
Complètement. Et c'est vrai que parfois, j'ai pas à ce moment-là la force d'attendre. Ça peut m'arriver encore d'avoir des moments comme ça de crise, mais c'est tellement un centième de l'époque que j'appelle plus ça vraiment des crises. Ce serait pas me rendre service de continuer d'utiliser ce jargon.
Oui, j'appelle pas ça comme ça.
Non.
Ben, moi, j'ose pas non plus
j'appelle
dire ça.
J'appelle ça des lâchages, tu vois.
Ouais. Mais je sais que, elle nous l'avait dit, Nelly Adida d'ailleurs, de toute façon, on sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on lâche les chiens. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être de l'alcool, ça va être de la coke, ça va être la brioche. Je ne sais pas. Mais en fait, malheureusement, on est foutu comme ça, on est gaulé comme ça. Et il y a un moment où il va falloir que ça craque.
Oui.
Il faut que ça soit le moins douloureux possible et le moins grave.
Ça. Tu viens de résumer mon équilibre d'aujourd'hui. Enfin, depuis quelques années, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que les années, pour revenir sur les années où je me suis mise en. Où j'ai eu des histoires d'amour alors que j'étais sujette à ces crises, j'avais énormément honte. Et je mentais. J'ai des souvenirs d'avoir échafaudé des plans pour justifier des disparitions de gâteaux entiers. Tu sais, des trucs comme ça, fou. J'ai des souvenirs même très, tu vois, très précis de t'avais un gâteau, un cake qu'avait fait la mère d'un mec avec qui je sortais. Et il avait dit, c'est pour le petit-déj, tu vois, machin. Et il était parti le matin. Et je me souviens très bien être devant ce gâteau et commencer à couper une part et le manger. Et je peux pas t'expliquer, j'ai mangé le cake entier. Et le mec, il dit, c'est le gâteau de ma mère qui a mis hier. Tu peux en prendre si tu veux pour le petit-déj. J'ai mangé le cake entier. Et là, t'es obligé de trouver.
Mais tu peux pas le racheter puisqu'il est.
Non, c'est le gâteau de sa mère. Bon, donc, écoute, et je me souviens très bien de ce jour-là, j'étais avec mon couteau en main, j'avais fini le cake. Et t'es là, mais Marie, il faut une explication. Tu peux pas dire que t'as, pour un petit déjeuner, tu t'es mangé un cake pour 8, en fait.
Que tu l'as pris, que tu l'as trouvé tellement bon et que tu l'as amené à d'autres gens.
Tu peux pas, bien sûr, j'ai inventé un truc comme ça. J'ai dit, mais du coup, je me suis permis, j'ai pris comme ça, que je voyais ma sœur tout à l'heure, je lui ai pris. Et du coup, j'ai inventé un truc, du coup, je l'ai pris avec moi. Et j'avais inventé qu'en fait, j'avais pas pu le ramener. Mais c'était genre fou, parce que je pouvais pas accepter de lui dire, j'ai mangé un gâteau entier parce que je fais des crises où je mange des trucs.
Aujourd'hui, si tu le mangeais en entier, tu le dirais.
C'est ce que je dis, moi, j'en ai parlé à mon aujourd'hui, qui est devenu mon mari, mon conjoint avec qui je suis depuis bientôt 13 ans.
Wow.
Pendant des années, je lui ai menti aussi. Je faisais comme si... Je dédramatisais en disant... par exemple, quand il me voyait beaucoup... Lui, il voyait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il me voyait d'un coup des jours. Pourquoi ces jours-là, elle accepte de manger ce que pendant 5 jours, elle a dit non, désolé, non, j'en veux pas. Et d'un coup, aujourd'hui, pourquoi oui. Il sentait qu'il y avait un truc derrière, donc il ne m'en parlait pas parce qu'il sentait que c'était, je pense, un truc un peu tabou. Mais c'est moi, un jour, qui lui ai dit, les moments comme ça où tu me vois manger et ça, pose pas de questions parce que je disais voilà, ça me stresse, me demande pas pourquoi aujourd'hui. Enfin, je me sentais accusée quand ils me disaient genre ah bah aujourd'hui, et j'étais ah oui, en fait voilà, les jours comme ça, c'est des jours barrés et en fait ça s'appelle la grosse dame, j'ai une grande dame qui est là et quand elle est là, elle est là, faut pas poser de questions et puis quand elle est là, bah tu sais que demain elle va repartir donc tu me demanderas pas pourquoi d'un coup je remange de la soupe quoi. Et donc en fait, je lui ai expliqué qu'il fallait plus me questionner, que quand elle était là, que c'était mon équilibre et du coup maintenant, je lui dis, en fait, je dis aujourd'hui c'est journée grosse dame hein. Donc ce soir on se fait pizza et tu vois et burger parce que la grosse dame est là et du coup il sait que c'est une journée comme ça et que du coup le lendemain bah il y aura pas deux journées grosse dame d'affilée par exemple. C'est comme
je pense
ça.
Que c'est, moi, en tout cas, je pense, de mon humble avis, que c'est une bonne solution parce qu'il y a presque un peu d'amicalité pour cette grosse dame. Et donc, encore une fois, ça veut dire embrasser ces zones d'ombre.
Exactement.
Et je pense qu'on se débarrasse plus des addictions en justement les acceptant, tout mettant de la lumière dessus qu'en les combattant.
Complètement.
Voilà, ça, je le dis souvent, on l'entend souvent. La bataille, elle est déjà perdue.
Exactement.
De toute façon, depuis le début.
C'est vrai que du coup, mais c'est marrant parce que j'emploie vraiment ces mots-là dans mon spectacle quand je parle de ça, où vraiment, tu vois, je dis que je décide de, tu vois, de lui prendre la main et d'en faire.
Bah, c'est ton allié, c'est toi, en fait.
Bah oui, c'est ça.
C'est la petite. C'est souvent, on te dit l'enfant intérieur, tout ça. Moi, j'aime pas trop, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un enfant intérieur.
La grosse dame intérieure.
Pourquoi pas? En tout cas, on a tous des parts d'ombre. Et puis surtout, on a l'ange et le diable sur chaque épaule. Voilà. Et t'arrives aussi à en parler sur les tournages. Tu es partie 2 mois en Italie.
Ouais.
Comment tu fais pour avoir ces journées un peu lâchage?
Moi, j'en parle. C'est pour ça aujourd'hui.
Tu dis aujourd'hui, j'achète.
C'est parce qu'aujourd'hui, je dis voilà, moi, ce week-end, là, je m'en suis foutu plein de gosier. Alors, évidemment, c'est aussi en partie avec les gens avec qui je passe du temps où on a bu plein de vin, plein de trucs. On a fait la fête, on a mangé j'ai mangé tout ce que je voulais, que j'avais spoté sur le menu. Tu vois, je fais ça souvent. Je regarde dans le resto du je me dis, bah tiens, ça, j'ai trop envie de manger. Là, je peux pas parce que cette semaine, je fais attention et on tourne. Mais quand je vais avoir un jour gros âge, je vais pouvoir prendre ça. Donc, du coup, je kiffe à prendre tout ce que je voulais prendre avec tout le monde au restaurant. Et ensuite, le lendemain, quand j'arrive sur le tournage, et je dis ah non, oulala, non, moi je mangerai pas ça. Ou non, ce soir je pourrais pas venir au resto avec vous parce que hier je me suis lâchée, donc je vous rejoins pour
Bien
le.
Sûr.
Mais je mens pas, je fais pas genre je suis trop fatiguée, j'ai resté dans ma chambre un peu. Non.
En fait, c'est une sorte après. De reprise du contrôle, je trouve, parce que je me retrouve là-dedans. Par exemple, moi, ça m'arrive de savoir que j'ai un truc important et donc d'arriver à contrôler la nourriture bien pendant quelques temps, faire manger
dans un but.
Voilà, dans un but. T'arrives à cet événement et donc tout le monde te dit oh, t'es canon, t'es mince et tout. Mais tu sais très bien que c'est possible que 5 jours après, si on te revoit, on te trouve pas mince. C'est bizarre, non?
C'est, bah, c'est
ce ma truc-là
vie.
Ou pas?
C'est complètement
voilà.
Ma vie.
Et de dire aux gens, oui, non, mais c'est parce qu'avant-hier,
ah,
j'ai
c'est
pas mangé.
Ma vie.
Mais tu sais très bien que tu peux reprendre, t'as perdu 3 kilos, mais tu vas pouvoir les reprendre aussi.
Évidemment.
Ouais.
Ça fait partie de mon.
Et c'est... tu te montres les jours où tu te sens bien. C'est, souvent, c'est un peu plus comme ça.
Oui, ça s'est calmé. Avant, je pouvais vraiment annuler un événement ou une soirée pour. Maintenant, je le fais. Non, avant, je pouvais non seulement 2 choses. Je pouvais ne pas aller à un truc parce que je savais qu'elle allait avoir. De la nourriture et que je ne pouvais
pas
me permettre.
Oui, voilà, ça aussi, c'est horrible pour
et
moi.
Et tristesse, ça, j'ai arrêté de le faire.
Moi, j'ai un problème avec le Shabbat. Hein. Le vendredi soir, je déteste aller. Non,
ouais,
je déteste.
Justement, parce que tu sais que ça va être tout.
Moi,
j'aime
bien me lâcher avant 18h. Tu vois, moi, c'est ça, mon contrôle freak. C'est
ah
genre,
oui, d'accord. Jusqu'à une,
ouais,
un
le
horaire,
matin, le
Cendrillon,
midi,
quoi.
Le 16h, le goûter,
Cendrillon.
J'adore. Cendrillon. Et genre, le soir, lâchez-moi. Ne me proposez. Tout le monde le sait d'ailleurs. Personne ne me propose de dîner.
Ah ouais.
Mon mec, il va pas me dire, je vais te faire plaisir.
On
va au resto le soir. Moi, il faut aller au resto à midi.
Mais ça va carrément t'angoisser si d'un coup tu vas devoir te retrouver à dîner.
Non, pas du tout.
Ah, quand même.
Pas du tout. Mais c'est pas mon kiff.
Ouais.
Parce que moi, ce que j'aime, c'est pouvoir manger toute la journée.
Ok.
Et le soir, je peux rentrer chez moi, me faire une soupe tranquille, manger très tôt. Ouais, voilà. C'est notre équilibre, on l'a trouvé.
Ouais, c'est
quoi.
Ça, chacun le sien.
Donc cet équilibre dans les excès, finalement, parce qu'en fait, c'est du lâchage et du contrôle. Hein. On est dans un équilibre assez fragile quand même. Hein.
Fragile, mais l'amplitude est beaucoup
moins grande.
Les vagues sont beaucoup moins hautes.
Est-ce qu'on peut, on parle de contrôle quand même et de rattrapage en fait, ça reste du contrôle. Est-ce que tu peux dire que tu n'en souffres plus et quelles sont justement tes contradictions, c'est-à-dire celles qui font qu'aujourd'hui tu peux vivre une vie sereine de maman, d'actrice, de femme
J'en souffrirai toujours. Je pense que c'est un mal, l'anorexie, la boulimie, les problèmes de poids, c'est un mal dont on ne guérit jamais. Je pense. Il faut juste apprendre à vivre avec, à le dompter, à lui prendre la main, à embrasser ça dans la lumière, parce que je pense qu'on n'en guérit pas. C'est faux. Les anciens anorexiques qui ne le sont plus sont des gens qui ont trouvé un équilibre personnel et qui arrivent à vivre avec de la meilleure façon qu'il soit possible de vivre avec. Et j'en suis persuadée.
On peut ne plus en souffrir, par contre.
Alors voilà, j'en souffre moins. Je n'ai plus ces vagues hautes de 10 mètres et ces chutes de 10 mètres. Mais par contre, je suis quelqu'un qui est toujours des stigmates. Et j'apprends à les accepter. Je compte toujours mes calories tous les jours. J'ai besoin, ça me tranquillise. Sinon, je n'arrive pas à m'endormir si je ne suis pas certaine que je n'ai pas dépassé le nombre de calories qui me permet de me dire demain, je n'aurai pas grossi en me réveillant. Je suis dans un contrôle quand même toujours permanent de ce que j'ingère, sauf les jours évidemment rouges. Je ne compte pas. Là, c'est l'angoisse si je me mets à réaliser que j'en ai,
si tu comptes,
j'ai mangé 12 000 calories. Ouais. Mais je compte toujours mes calories. C'est artificiel parce qu'on sait qu'il y a des bonnes et des mauvaises calories. Je le sais que la calorie d'un avocat n'est pas la même qu'un Snickers, mais c'est un truc de toc.
La calorie d'un avocat n'est pas la même que celle d'un médecin. T'es là, j'ai envie de quoi?
Non, mais ça vaut plus.
Bien sûr, bien toujours. Sûr, un médecin toujours plus. L'avocat, c'est compliqué. Hein.
Moi, c'est fini, c'est les années 90.
Qu'est-ce l'avocat. Qu'on fait? On le mange, l'avocat, il est bon pour nous.
Moi, j'aime bien l'avocat, après, j'en suis pas fan forcément de ouf de moi-même.
Mais c'est sain. C'est très gras, mais c'est sain.
Voilà, comme c'est gras, c'est calorique. Après, on rentre dans un autre sujet de les bonnes graisses. Et moi, j'ai quand même un truc avec le chiffre des calories, où pour m'endormir tranquille, les jours où je suis pas dans un souhait de... Mmh. C'est pas pour perdre du poids, hein, très important de préciser, c'est juste pour ne pas grossir.
Ouais, je sais.
Il faut que je sois sûre que j'ai mangé moins de 1800 calories si j'ai pas fait de sport et 2000 si j'en ai fait, tu vois.
Parlons-en quand même, tu fais du sport.
Ouais.
Tu fais quoi ?
De l'aquabike, c'est génial, c'est le seul sport que j'adore parce que je déteste transpirer.
Ah,
et que je transpire énormément.
Est-ce que ça a un nom, ça ? Parce que les gens... Moi aussi, je transpire énormément et je hais transpirer. Ouais. Et c'est sûrement parce qu'on a ce problème-là de poils de bite sur la tête.
Je sais pas si c'est pour ça.
Moi, j'ai jamais aimé... Elodie m'avait amené un Bikram.
Je ne peux jamais de la vie.
Moi, je fais du yoga parce que je ne transpire pas.
Ah ouais ? Ah, oui. Je pense que je transpirerais même en faisant du yoga.
J'adore le yoga parce qu'on ne transpire pas. Moi, transpirer, c'est un enfer.
Et l'aquabike, c'est génial parce que tu es déjà dans l'eau. Donc, tu pédales et dès que tu ne te sens pas bien, tu t'immerges et donc tu ne ressens pas la transpiration.
Et en plus, c'est bref. C'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime
45
pas
minutes.
Voilà, j'aime pas les sports d'une heure et quart.
Ah, moi, c'est génial. Je fais ça dans une chaîne de centre qui s'appelle Aquabike. Bah, Ils en ont plusieurs dans Paris.
Oula, t'es sponsorisée, toi ?
Non, j'adore, j'y vais parce que je suis une des premières abonnées. Ça fait plus de 5 ans que j'étais au premier centre et je pense que je suis une des mascottes du truc. J'ai atterri là, je crois que ça faisait ouvert depuis 2 mois, ils en ont 12 aujourd'hui. T'es là, genre, je suis un membre fondateur, je dois être au centre d'actionnaires du truc. Et ils sont géniaux, ces centres. Et vraiment, il y a des cours toutes les heures, tous les jours. Franchement, on dirait que je fais la pub pour, mais c'est.
Non,
moi, ça m'a sauvé. Hein, c'est un sport que j'aime.
En fait, faut trouver. Et t'as aussi une chance, c'est que t'as un métier passion, entre guillemets, quand même, parce qu'il faut avoir des rêves, je trouve, auxquels s'accrocher pour pas avoir envie de sombrer souvent, non ?
De se noyer dans le bassin.
Bah oui, non, mais c'est vrai.
Ouais, après, quand je tourne, par exemple, j'en fais pas du tout. Quand je parle, là, je suis partie de presque 2 mois en Italie, bon, c'est sûr que j'en ai pas fait. Mais c'est pour ça que parfois c'est par intermittence aussi. Hein. Quand tu tournes tous les jours, tu peux pas y aller.
Ça porte bien son nom, l'intermittence.
C'est ça, c'est le mot. Technique,
on est des intermittents.
On est dans l'intermittence. Et voilà. Et par contre, quand je tourne pas, j'y vais minimum 3 fois par semaine.
Et encore, toi, t'es pas en garde alternée.
Non.
Sinon, t'es aussi intermittent. Ouais, sinon, t'es une double peine. Super. Et ben, écoute, moi, je trouve que tu t'as libéré quelque chose. Déjà, même en moi, ça fait du bien.
Ah ouais.
Dire ça, ouais, ouais.
Bah, écoute,
et puis, comme tu
bien,
dis, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui souffrent d'un rapport assez conflictuel avec la nourriture et qui en ont fait un ennemi, alors qu'on peut... aujourd'hui, toi, tu peux dire que la nourriture n'est pas ton ennemi.
Non, plus. Plus vraiment, c'est plus... Oui, je suis très gourmande, donc je vais plutôt dire que c'est des amis, mais j'ai réussi vraiment à l'intégrer dans mon paysage sans que ce soit une souffrance quotidienne. Mais par contre...
Ça prend du temps.
Ça me demande quand même une vigilance constante. Et le mot « contrôle », je peux pas, déjà en avouant que je compte mes calories tous les jours, forcément je suis dans le contrôle, c'est objectif. Je peux pas, je pourrais jamais, ma seule, on va dire, souffrance ou mon seul idéal que je n'ai pas encore atteint, ce serait d'en être tellement, tellement libérée que je suis capable d'abandonner cette part de contrôle. Et je pense que c'est une sorte de garde-fou que je peux pas encore me permettre d'abandonner. C'est mon seul petit regret, c'est que ça me demande quand même de l'énergie, tout ça. Ça me demande
tu crames des calories.
Voilà, à réfléchir à comment, à quoi, à quel... Mais ce serait ma dernière petite marche. Et encore, peut-être qu'il ne faut pas que je la monte et que c'est très bien comme ça. Mais ce n'est pas une souffrance, donc ça va. Mais c'est quand même un truc où je me dis, tiens, ça pourrait me libérer encore un peu l'esprit de moins être dans ce besoin de contrôler pour finalement surfer sur la vague, quoi.
Enfin, quand on voit ce que tu as souffert...
Ouais, d'où je viens.
L'anorexie,
exactement.
La boulimie, l'hyperphagie.
Exactement.
Aujourd'hui, de te voir comme ça, apaisé, quand même, ça doit te rendre heureux.
C'est sûr. D'où je viens, c'est sûr qu'on ne peut
pas oublier. Oui, il faut regarder d'où on vient.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Joséphine.
Ouais, merci à toi.
C'était un plaisir de t'avoir au micro de Contradiction.
Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire.
alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.